Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. En ces jours sombres marqués par des violences racistes qui ont déclenché une flambée de protestations dans le monde entier, aux États-Unis mais aussi en Europe, l'histoire nous rappelle que ces morts tragiques liées à la couleur de peau sont des séismes qui, en réplique, ressurgissent régulièrement ici ou là. Ainsi, en 1973, la France et la ville de Marseille en particulier ont été le théâtre sanglant d'une série d'assassinats visant des Arabes et surtout des Algériens. Plus de 50 d'entre eux, en quelques mois, ont été abattus. De cette histoire vraie est né un roman puissant, éclairant, intitulé « Marseille 73 », tout juste publié aux éditions Les Arènes et signé Dominique Manotti, qui, dans sa voix, présente le contexte de sa fiction.
Souvenons-nous, nous sommes en 1973. Après 30 ans de croissance, les premiers signes de ralentissement se font sentir. Solution du gouvernement, expulser les travailleurs immigrés s'ils n'ont pas un contrat de travail et un logement décent. La plupart d'entre eux travaillent au noir et vivent dans des taudis. Ils sont donc expulsables. Ils s'organisent pour résister. À Grasse, charmante cité provençale, le millier d'immigrés qui travaillent dans le bâtiment et l'agriculture se met en grève le 12 juin pour obtenir des contrats de travail. Une grève de travailleurs immigrés, chez nous, impensable. Les murs de la ville se couvrent d'affiches qui hurlent « Halte à l'immigration sauvage ». Les CRS chargent, les commerçants leur prêtent main forte, la chasse à l'immigré dure jusque tard dans la nuit. 5 blessés très graves, 200 arrestations. C'est le signal de départ pour toute la région. Les premiers assassinats sont commis ici ou là. Puis, en août, à Marseille, quand un traminot est assassiné par un malade mental algérien, c'est la flambée. En 15 jours, 7 maghrébins sont abattus dans la ville et 8 autres dans les environs immédiats. Un comité de défense des Marseillais s'organise contre la racaille nord-africaine et l'immigration sauvage. Les travailleurs immigrés manifestent pour enterrer leurs morts et font la grève contre les assassinats. Et la police ?
Bonjour Dominique Manotti.
Bonjour.
Après vous avoir entendu dans l'extrait de cette vidéo publiée sur votre site internet, où vous revenez sur les circonstances dont vous vous êtes inspiré, nous voici donc en ligne avec vous, puisqu'en effet, l'historienne, l'écrivaine que vous êtes, revient en librairie avec ce nouveau livre qui s'inscrit dans la même ligne que vos précédents, puisque depuis les années 90, vous prenez soin de raconter, décortiquer des affaires politiques, économiques, sociologiques. Et là, votre sujet est donc cette vague de meurtres anti-algériens qui a frappé la France en 1973. Alors, ce sont des faits que vous connaissez en profondeur désormais. Mais je me demandais, Dominique Manotti, à l'époque, est-ce que vous vous souvenez de ces mois terribles ? Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous ressentiez au moment de ces faits ?
Alors écoutez, ça c'est une très très bonne question. C'est justement pour ça que j'ai décidé d'écrire là-dessus. C'est parce qu'à l'époque, j'étais extrêmement militante, parisienne, j'ai toujours été parisienne, extrêmement militante, syndicaliste à l'époque, et je n'ai jamais entendu parler de cette histoire.
À l'époque ?
Jamais entendu parler de cette histoire.
Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y avait un silence médiatique ?
Total, total. C'est-à-dire qu'on est, si vous voulez, c'est une des constantes sur ces problèmes-là, on ne les affronte pas, on les nie. On est, si vous voulez, la civilisation française, la France, parlons pas de civilisation, parlons de notre nation, nous sommes dans le déni. Dans le roman, je cite, en pleine période chaude, au moment où l'Algérie de Boumediene décide de suspendre les relations avec la France parce que trop c'est trop, et que la sécurité des Algériens en France n'est plus assurée. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans des inventions. On est vraiment dans des problèmes extrêmement prenants. Pompidou fait des déclarations disant « En France, le racisme n'existe pas ». Donc c'est des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas arrivées. Et moi, je vous dis, le choc a été de découvrir ça en me disant « Et moi, je n'en ai rien su ».
Et vous le découvrez quand alors, Dominique Manotti ?
Eh bien, je le découvre totalement par hasard. Mon éditeur italien me demande une nouvelle pour une publication de recueil de nouvelles en Italie qui se passe sur 24 heures avec Daquin.
Je précise, Théodore Daquin, qui est votre personnage principal ici dans ce roman, mais qu'on a déjà croisé dans 4 autres. On va y revenir.
Voilà, et qui était dans Or Noir, qui se passe à Marseille en 73, dans le premier semestre. Moi, je suis incapable, enfin, je ne suis pas une vraie écrivaine de nouvelles. Donc, je rame un peu et je me dis, je vais faire quelque chose dans la suite d'Or Noir. Donc, je reprends Or Noir, je lis la presse autour d'Or Noir et je tombe immédiatement là-dessus. Les massacres suivent à quelques mois près Or Noir. Or Noir s'arrête en avril 73 et les problèmes avec les travailleurs immigrés commencent en juin 73. Et c'est comme ça, par hasard, que je tombe là-dessus.
Donc finalement, c'est par la littérature que vous vous réappropriez l'actualité de notre pays.
Oui.
Et pourquoi après, Dominique Manotti, décidez-vous, puisque nous sommes 47 ans après les faits, donc pourquoi décidez-vous de revenir sur cette histoire en particulier ? Est-ce parce qu'elle était occultée ou parce que vous avez senti qu'il y avait aussi un retour du racisme encore plus inquiétant que d'habitude ?
Non, je dois dire, j'ai 2 ans et demi de travail là-dessus. Donc je ne sentais pas du tout la crise actuelle venir. C'est vraiment une coïncidence. C'est vraiment, si vous voulez, l'angoisse, c'est une véritable angoisse de se dire comment est-il possible qu'on ait occulté de telles affaires. Vous comprenez ?
Oui.
C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ces massacres de 73, c'est quand même pas si vieux que ça. C'est quand même quelque chose que moi, personnellement, j'ai vécu cette période-là. Donc, je peux témoigner, je peux dire, je n'en ai rien su.
Donc la première démarche, si je comprends bien, Dominique Manotti, comme écrivaine, c'est 45 ans après, essayer de comprendre déjà ce qui s'est passé.
Donc,
retrouver les archives, retrouver la documentation et peut-être retrouver des témoins de l'époque.
Oui, j'ai retrouvé l'avocat et le journaliste.
Et donc, vous avez accès à toutes ces archives, cette documentation, et là, vous vous dites, il faut que par un roman, je raconte cette histoire qui n'a pas existé à son époque.
Oui, parce que si vous voulez, moi, en gros, dans l'ensemble de mes romans, ce que j'essaye de faire, c'est, je prends ça un peu au hasard, j'ai pas de plan systématique d'entrée de jeu, mais au hasard, j'essaye de raconter ma génération. C'est ça qui m'intéresse, c'est de raconter ma génération. Et ce trou noir fait partie de ma génération, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que la situation que nous vivons aujourd'hui est aussi l'héritière de la façon dont nous avons géré cette époque. Cette époque de la fin de la guerre d'Algérie est une affaire absolument cruciale pour l'histoire de France. Cruciale.
Donc, Dominique Manotti, là, vous avez entre les mains un sujet passionnant que vous explorez un peu comme une archéologue, j'ai envie de dire, pour extraire dans ses sous-sols les informations, ce qui s'est passé, tous ces gens qui ont été assassinés. Mais est-ce que vous vous rendez compte aussi au fur et à mesure que ce qui vous intéresse dans ce qui deviendra Marseille 73, c'est que certaines de ces violences sont aussi imputable à la police elle-même et qu'il y a quelque chose de dysfonctionnel qu'il faut travailler.
Oui, bien sûr. La fin, je la connais dès le début.
Oui, parce que vous êtes resté fidèle à la réalité, n'est-ce pas?
Absolument. Les faits sont effectivement réels. Donc je sais la fin tout de suite. C'est pas moi qui l'invente. C'est pas moi qui l'invente. Je la raconte parce qu'elle est importante, elle est tout à fait importante. Et elle rend tellement écho, elle fait tellement écho avec le déni profond qu'on vit aussi aujourd'hui. Rien n'a changé dans le comportement du pouvoir et de la police. Rien n'a changé.
De quel déni d'aujourd'hui vous voulez parler, Dominique Manotti?
Le déni des morts et des violences.
Et des violences policières, vous voulez dire?
Mais bien sûr.
Qui se manifestent toujours?
Mais de façon constante. Vous avez entendu parler de l'histoire de Zineb Redouane,
oui.
Cette femme algérienne de 80 ans, à la fenêtre de son appartement au 4e étage. Elle ouvre ses volets pour fermer parce qu'il y a des gaz lacrymogènes contre la manifestation qui passent au pied de chez elle. Elle prend une grenade en pleine tête. Elle meurt le lendemain sur la table d'opération. La grenade lui a défoncé, fracturé toute la partie droite du visage. 80 ans, mère de 6 enfants. Elle meurt sur la table d'opération. Qu'est-ce que nous dit Castaner? Qu'est-ce que nous dit l'IGPN? Aucune preuve que le tir de grenade soit à l'origine de sa mort. Elle est morte d'un arrêt cardiaque sur la table d'opération.
Et ça, c'était où et quand, rappelez-nous?
Marseille, 2018, décembre 2018.
Est-ce que vous pensez aussi, Dominique Manotti, que ce soit le fait que des policiers aient été impliqués dans ces meurtres contre les Algériens en 1973, que justement il y a eu cette chape de silence et ce déni, et que la police elle-même et la justice ont préféré détourner les yeux de ces affaires?
Je pense que c'est une affaire très très profonde, si vous voulez. Je pense, dans le roman, un personnage à un moment mis très violemment en cause, et on met justement en cause l'impunité des assassins, et le type, pour se défendre, dit « Je suis impuni parce que tout le monde sait que la population est d'accord avec moi. » Et voilà, c'est vrai. En 73, c'est vrai. Il y a une base très importante qui soutient en fait l'action anti-immigrée. Il y a un courant raciste profond dans la population. Donc si vous voulez, l'impunité, c'est toujours une impunité à un moment donné avec un accord populaire large. Et l'impunité de 73, c'est ça. C'est ça, la défaite en Algérie, elle n'est pas passée.
Alors précisément, si vous permettez, Dominique Manotti, et pour comprendre l'ampleur de ces assassinats et de ces actes de violence contre la population algérienne à Marseille, je voudrais lire un extrait de votre roman où vous expliquez exactement comment ça se passe, ou en tout cas pourquoi les statistiques sont restées un petit peu floues. Je vous lis, c'est page 88.
Oui.
Au total, 8 morts en 15 jours. Une bonne moyenne d'un mort tous les deux jours. Mais ce sont les chiffres officiels. La réalité est très probablement différente. De temps à autre, on retrouve un corps d'Algérien abandonné depuis quelque temps dans un endroit désert ou au fond de l'eau, sans trop savoir quand ni comment il a été tué. Accident, suicide peut-être. Donc, on ne le compte pas dans les chiffres officiels de la vague de meurtres en cours, puisqu'on ne sait pas. De même, si un blessé survit plus de 24 heures avant de mourir, sa mort sort des statistiques des morts et personne ne fait le décompte des blessés. Quand il y a une fusillade contre un groupe de Maghrébins, par exemple, ou contre un homme isolé et qu'on ne relève pas un mort ou un mourant, les statistiques officielles notent simplement « pas de victimes ». Et nous avons eu, sur les 2 mois d'été, une bonne vingtaine de fusillades contre des cafés ou des foyers algériens ou contre des groupes ou des individus immigrés dans la rue. Sans parler de quelques incendies criminels contre des foyers ou des entreprises. Sur ces agressions, aucun chiffre publié. En fait, depuis l'affaire de Grasse, le 12 juin dernier, il y a eu pratiquement tous les jours des incidents violents à Marseille et dans ses environs immédiats, dont les victimes sont toutes des Nord-Africains, comme le disent les statistiques officielles, et Pour être plus précis, jusqu'ici, la très grande majorité des victimes sont algériennes. Ces tirs ne doivent sans doute rien au hasard. La guerre d'Algérie n'est pas finie. Fermez les guillemets. Est-ce que c'est tout l'enjeu aussi de cette histoire, Dominique Manotti, que pour certains, la guerre d'Algérie n'est pas finie ?
Ah oui, 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 oui. Et j'ai appris beaucoup de choses, en travaillant là-dessus, si vous voulez. Et moi, c'est ça aussi qui me passionne, c'est-à-dire qu'en faisant ces romans, j'en apprends sur mon histoire à moi. C'est ma génération, ça. C'est ma génération. C'est ça que j'essaye de raconter, si vous voulez. C'est ma génération avec toutes ces faillites, toutes ces défaites. Et ça, c'est très important. On n'a pas su mettre fin à la guerre d'Algérie, ça c'est clair, c'est clair. Après cette réalité, ces faits historiques, Dominique Manotti, j'aimerais avec vous en arriver quand même à la partie fiction de ce roman, oui.
Marseille 73, qui a paru, je le rappelle, aux éditions Les Arènes, puisque pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu un dysfonctionnement de la police, vous mettez en scène un trio de policiers, intègres cette fois, qui enquêtent de leur côté pour retrouver le meurtrier d'un jeune Algérien de 16 ans, froidement abattu dans la rue. Et à la tête de cette petite équipe, on retrouve Théo Daquin, ce personnage récurrent dans votre œuvre. Ici, c'est la cinquième fois qu'on le retrouve. Sauf que là, on le retrouve jeune, en début de carrière.
De carrière, oui.
Est-ce que vous pourriez nous dire qui est ce policier, Dominique Manotti, et surtout, pourquoi vous tient-il à cœur ?
Oh, qui est ce policier ? C'est très difficile à dire. Bon, c'est un personnage qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un personnage que j'ai créé dans mon premier roman et qui avait une importance considérable dans ce premier roman. Mon premier roman se passait dans le sentier, dans la confection, dans le sentier.
Et s'intitule Sombre Sentier, d'ailleurs.
Sombre Sentier. Et Daquin était un peu, comment dire, la mise en homme, la mise en chair du sentier. Tout ce qu'était le sentier, à la fois complètement hors la loi et en même temps fondamentalement important sur le plan économique pour la vie du prêt-à-porter français. Violent, très violent, le sentier c'était quand même un milieu assez violent à l'époque, et en même temps chaleureux, très chaleureux. Et un milieu où on se sentait très bien, où les relations humaines étaient très vives, fortes, et qui en même temps pouvait avoir des moments d'explosion violente. Bon, tout ça, j'ai essayé de le mettre dans le commissaire Daquin. J'ai essayé, bon, et j'avais vécu aussi, à l'époque le sentier était un milieu complètement masculin, il n'y avait aucune femme, et me trouver en tant que syndicaliste dans ce milieu d'hommes, sans perturber les relations entre les hommes, parce que j'étais pas une femme, j'étais le syndicat, c'était un moment tout à fait extraordinaire pour sentir ce que c'est que l'amitié virile. comment les hommes se vivent entre eux. Et j'ai essayé aussi de mettre ça dans le personnage de Daquin. Donc voilà, pour moi, c'est un personnage très complexe, très riche. Bon, pourquoi je le reprends pour Marseille ? Parce que ce personnage que je connais bien me donne sur Marseille un regard extérieur. Je n'arrivais pas à me mettre dans la peau d'un flic marseillais de l'époque, de 73. J'ai beaucoup aimé le personnage du gros Marcel que j'ai créé comme flic tout à fait significatif, enfin un grand personnage de l'époque, mais moi je ne peux pas me mettre dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Je peux pas, ça ne peut pas être le regard sur le livre, le regard sur l'aventure. Donc le regard sur l'aventure, c'est celui de Daquin, que je maîtrise beaucoup mieux et qui me donne du recul par rapport à Marseille. C'est un Parisien à Marseille, exactement ce que je suis. C'est pour ça que je le reprends dans ce roman.
Et puis vous le présentez un peu comme un croisé, un chevalier. Est-ce que vous pensez en effet, Dominique Manotti, que pour être un policier honnête, il faut se sentir investi d'une mission ?
Moi, je ne crois pas. Je le présente plutôt comme un chasseur qu'un croisé, si vous voulez. Il n'est pas en croisade pour le bien. Je crois qu'il mène la vie qu'il a envie de mener et les combats qu'il a envie de mener. Il n'a aucune forme de sectarisme. Il est ouvert à la compréhension. Il peut comprendre parfaitement. Il peut comprendre toute une série de comportements extrêmement marginaux ou paralégaux. Il a même, lui-même, des comportements parfois paralégaux. Par exemple, si vous voulez, quand il impressionne, il fait même franchement peur à la jeune femme qui veut faire parler, et il utilise sa présence physique, son poids et sa méchanceté pour la déstabiliser et la faire parler. Mais une fois qu'elle a parlé, il n'envisage pas du tout la punition. Je veux dire, c'est pas son problème. C'est pas son problème de rétablir le bien. Il veut aller jusqu'au bout de sa démarche à lui et gagner. Il veut gagner. Il veut chasser, il veut trouver et il veut gagner.
C'est aussi une guerre des polices que vous décrivez, Dominique Manotti, dans ce roman, entre la police urbaine et la police judiciaire de Marseille, oui. Avec au milieu donc cette communauté algérienne presque prise en otage. Mais ici, la famille Kédir, dont le fils a été assassiné, elle ne se laisse pas victimiser. À commencer par le père, dont vous faites un portrait magnifique. Et j'avais l'impression que c'était peut-être aussi un livre où vous redonniez justice à tous ces Algériens qui ont été chassés de leur pays par la guerre ou par la misère, venus en France et qui n'ont connu finalement que le racisme des Français.
Oui, oui. Alors lui, il a un ami en France, un ami très, très proche, c'est son patron avec qui il a fait la guerre. Mais ça, c'est un peu exceptionnel. Le patron, on le voit pas du tout, mais c'est un peu exceptionnel. Il a sa chance, si vous voulez, c'est que il a pu s'installer en France grâce à ce type qui était son lieutenant pendant la guerre et qui lui a procuré du travail, un appartement, etc. Donc il est effectivement en situation de ne pas être victime. Et il n'est pas victime, et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le personnage. Oui, oui, j'ai beaucoup aimé le personnage.
On l'a bien compris depuis le début de cet entretien que c'est un roman autant historique que politique. Et c'est un genre que vous êtes une des rares, Dominique Manotti, à prendre à bras-le-corps en littérature. Et j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, qu'il y a de moins en moins d'écrivains de romans noirs qui travaillent cette matière. Qu'en pensez-vous ?
Oui, absolument, je crois que c'est vrai. Alors, il y en a quelques-uns. Frédéric Paulin a fait des très belles choses sur l'Algérie et sur les années noires en Algérie. Bon, mais Cantaloube a fait aussi quelque chose. Il y a Slocombe qui fait des choses sur la guerre de 40. Mais c'est vrai, ça n'est plus du tout la vague qu'il y a eu au moment du néo-polar. Vous avez raison. Il y en a beaucoup, beaucoup moins.
Et comment est-ce que vous expliquez ça ? Les écrivains se détournent de cette matière ?
Eh bien, j'explique ça par le fait que depuis les années 80, donc depuis l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, il y a beaucoup moins de luttes sociales et politiques. La médiation passe par l'État, par le gouvernement. La politique a beaucoup changé. C'est pour ça aussi que la gauche a disparu pendant longtemps.
Donc le roman noir est moins militant qu'avant, selon vous ?
Ah oui.
Vous êtes une des rares à continuer de militer par le roman ?
Ben, militer, je sais pas. Si vous voulez, moi je me sens vraiment tout à fait sur la ligne de Sepúlveda, qui disait, il y avait une phrase qui me résume très très bien, « Raconter, c'est résister ». J'essaye toujours. On me dit « Vous dénoncez ». Non, je ne dénonce absolument rien. Je raconte. Je raconte et je m'efforce d'avoir autant de respect et de précision pour mes personnages problématiques, on va dire, avec lesquels je n'ai pas véritable sympathie, mais je fais autant attention à eux qu'aux autres personnages, qu'aux personnages avec lesquels je me sens une forte empathie. Je fais autant attention, par exemple, au gros Marcel dans le roman, donc à ce policier assez extraordinaire, que pour le père du jeune assassiné. Je n'essaye pas du tout de caricaturer et je n'essaye pas de dénoncer. J'essaye de raconter ce qui arrive. Et dans un pays comme la France, où effectivement le déni est extrêmement important, raconter c'est explosif. Mais je raconte ce qui est, ce qui se passe. Et je ne dénonce pas. Je ne dénonce pas. La dénonciation, c'est pas ma démarche.
Oui, et de toute
façon... J'essaie toujours de comprendre.
Et pour aller dans votre sens, Dominique Manotti, effectivement, ici, vous ne faites pas du tout le procès de la police marseillaise ou en général, puisque, en l'occurrence, c'est bien un policier, Théo Daquin, qui va retrouver la vérité de cet assassinat contre un jeune Algérien sur lequel il travaille, quitte effectivement à secouer un peu le panier de crabe qu'est la police marseillaise à cette époque.
Et quitte à accepter la collaboration des frères de la victime.
Exactement.
Ça, c'est important. C'est-à-dire que les frères de la victime jouent un rôle quand même très important dans l'affaire. C'est finalement eux qui vont trouver les indices nécessaires. Alors, c'est pas eux qui vont résoudre le problème, mais c'est eux qui trouvent les indices nécessaires.
Merci beaucoup, Dominique Manotti, de nous avoir fait partager cette histoire qui donc était restée un peu sous les radars, en tout cas sous les radars littéraires aussi, puisque pas de roman jusqu'ici n'avait aussi bien raconté, décortiqué et nous avait pris vraiment avec entrain dans cette lecture passionnante de ce qui a pu se passer donc à Marseille en 1973. Avec ce roman que vous publiez aux éditions Les Arènes. Et encore un petit mot pour dire que tous ceux qui, comme moi, aiment Théo Daquin, vient d'être réédité en poche votre précédent roman, Raquette, où là, Théo Daquin est 40 ans après, en 2013, retraité de la police, mais il est toujours là, il va aider une jeune commissaire.
Absolument.
Merci encore.
Merci à vous, merci à vous.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio. Vous avez